Hey Olivier, je pense que ce serait important qu'on planifie nos activités stratégiques sur 3 ans. C'est ça que toutes les entreprises sérieuses font, puis il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas la même affaire.
OK, bon, ben regarde, je vais regarder dans mon calendrier, là. Hey, en passant, tu fais quoi, toi, samedi dans 3 semaines?
D'autre, je ne sais pas ce que je fais demain matin. Et t'imagines-tu dans 3 semaines, c'est comme dans une éternité?
OK. Puis toi, tu me demandes sérieusement qu'on planifie nos activités professionnelles sur 3 ans. Tu sais même pas qu'est-ce que tu fais dans 3 semaines parce que la vie s'en mêle. Go Pirate Canada? C'est qui, ça?
C'est Maurice, puis papa.
Olivier et Maurice, deux fauteurs de troubles professionnels, tiennent enfin cette promesse qu'ils ont faite à maintes reprises en s'attaquant à la planification prédictive. Parce que si on pouvait planifier les activités d'une entreprise en prédisant l'avenir, il y aurait pas mal plus de diseuses de bonne aventure multimillionnaires et les paquets de tarot se vendraient beaucoup plus cher. Voici leur histoire.
Là, j'aimerais spécifier, okay, qu'on avait planifié de façon très correcte de parler de la planification prédictive depuis maintenant 2 ans. On n'a pas
Ouais,
planifié qu'on ferait ça maintenant, on a planifié qu'on ferait ça éventuellement.
c'est ça. On s'est dit, on faudrait qu'on le fasse à un moment donné. C'est notre manière de planifier. Puis tu vois, on avait raison. On l'a fait à un moment donné.
Exact. Aussitôt que Saturne est rentré dans la maison de. Il est dans la maison de quoi, là, présentement, Saturne?
Alors, la maison de Hobbit.
OK.
Maurice, on voit ça souvent en entreprise. Hein? T'sais, on va faire une planification financière sur 3 ans, sur 5 ans. On va demander à un chargé de projet de nous dire combien de temps ça va prendre pour faire un travail hyper complexe par d'autres mondes, hein? C'est pas lui qui va faire ça.
Des
Puis
fois,
c'est
ils n'ont
lui.
même pas encore été embauchés.
Ouais, c'est ça. L'équipe n'a pas été encore embauchée. C'est lui qui va être tenu responsable que tout soit fait à cette date-là. Hein? Qu'est-ce qu'on a développé comme réflexe, hein, pour se défendre contre ça, Maurice?
Ben, faire x2 puis ajouter une marge de 100%.
C'est ça. Et j'ai entendu les chargés de projet me dire ça. C'est simple, là. Je demande aux développeurs combien de temps ils pensent ça va prendre, puis je fais fois deux. C'est rendu là.
C'est déjà pas si pire s'ils demandent aux développeurs.
Oui,
T'sais,
c'est
des fois,
vrai.
j'ai demandé à mon gestionnaire de produits, ça va me prendre combien de temps? Un gestionnaire de produits qui n'a pas encore ses équipes et qui n'a jamais travaillé de façon technique fait 6 mois.
Oui. Et tu sais, des fois, c'est on demande à l'équipe pour voir si la date qu'on a reçue ou qu'on s'est fait imposer, elle va être correcte.
Ouais.
L'équipe dit, ben non, ça va prendre 3 fois plus de temps. Ah, ben, désolé, vous avez 3 fois moins de temps.
Make it happen.
Make it happen. Ouais, make it so, dirait Jean-Luc Picard. Essentiellement, en essayant de prédire l'avenir comme ça, puis de planifier le travail en conséquence d'une prédiction qu'on sort de n'importe où, on voue pas mal les gens et les équipes à l'échec en essayant de prédire. T'sais. Il y a d'autres moyens d'y arriver, puis c'est de ça qu'il va être question aujourd'hui. Fait que, attachez-vous, c'est quelque chose. Maurice,
Olivier.
en quoi c'est intéressant de devenir un membre, un pirate officiel?
C'est intéressant parce que ça permet de faire partie d'une belle communauté de gens qui ont envie de faire changer des choses pour vrai. Pas juste en parler, mais agir.
On a une communauté Discord dans laquelle nos membres interagissent. Ils ont des bonnes idées. Il y a du changement de monde qui se ramasse là-dessus.
Oui, c'est aussi une superbe façon pour entrer en contact direct avec nous autres très facilement. Puis de participer à nos discussions, là, le nombre de fois où on a juste mis nos états d'âme, puis où juste dire voici qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez. C'est une belle façon pour être impliqué puis influencer ce qu'on fait.
Pour devenir membre, patreon.com/GoPirateCanada. Là, Maurice, le gros problème, dans le fond, avec la planification prédictive, c'est que c'est tout basé sur des suppositions. Qui, des fois, il y a des suppositions qui sont plus exact que d'autres par expérience et tout ça. N'empêche que des suppositions vont être affectées par tout ce qui est complexe et changeant dans la vie. Fait que le résultat, c'est que, ben, ils sont rarement justes, t'sais, à moins de se donner beaucoup trop de jeux, genre plus ou moins 3 ans sur un projet de 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, tu sais, quand on est dans un environnement qui est très, 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 très stable, OK, il n'y a pas de variables, tout va toujours être pareil. Là, faire de la planification prédictive, c'est facile. OK? Mais à partir du moment où on tombe dans un environnement qui est dynamique, puis un environnement qui est complexe, puis un environnement qui est VUCA, hein, là, on parle de volatile, incertain, complexe et ambigu. à ce moment-là, ben, il y a tellement de variables, il y a tellement de changements possibles, il y a tellement d'informations qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas compris correctement que de réussir à prédire, ça devient complètement ridicule. Donc, tu sais, regardons un peu pourquoi est-ce que la planification prédictive a tendance à échouer. Ouais. Les situations sont volatiles. OK? Tout contexte est appelé à changer un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps. Mais des fois, ces changements peuvent être brusques, voire même radicaux. Hein? Par exemple, tu vas avoir un changement de personnel, tu vas avoir un changement dans ton marché, changement de priorité, changement technologique, nouveau concurrent qui apparaît, on mange une pandémie par la tête, soudainement, le travail à distance qui était complètement impossible partout devient la seule option que tout le monde a. T'sais, ça, on appelle ça quelque chose, un changement qui va être très dramatique, très violent. Donc, comme ça, c'est difficile à prévoir. Ou même si on prévoit qu'il y a des choses qui vont changer, si on ne sait pas exactement quoi, ben, c'est difficile de prédire en conséquence.
Ben, c'est ça. T'sais, juste pour donner un exemple, là, nous, on avait prévu faire cet épisode-là chez vous. Là, on ne peut pas. Ça fait depuis avant Noël qu'on enregistre des vidéos de formation pour accompagner notre manuel pirate. Hein? On avait prévu de tout faire ça dans ton sous-sol. Maintenant, les choses ont changé. On va voir ce qui arrive. Mais tu sais, une chance qu'on n'a pas trop prévu.
Maintenant, il y a aussi le fait que l'avenir est toujours incertain. Ouais. Il va toujours nous manquer une partie de l'information sur certaines variables. Soit parce qu'on n'a pas pris la peine d'aller la chercher, mais plus souvent, soit on a oublié de la prendre en compte parce qu'on a déjà tellement de choses qu'il faut qu'on prenne en compte qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on est capable. Ou soit parce que carrément, cette information-là n'est pas disponible nulle part. Okay? Elle va se reposer sur un contexte qui n'existe pas encore. Donc, comme on travaille dans cette incertitude-là, on ne peut pas réussir à faire une prédiction qui va être juste quand on ne sait pas. C'est comme essayer de résoudre une équation d'algèbre avec une réponse qui est juste quand on ne connaît pas les variables. On ne parle aucune ou très peu. Il y a beaucoup de suppositions qui rentrent, puis ta réponse va habituellement être une réponse variable.
Oui, mais là, Maurice, là, moi, mon client, il m'a demandé une date.
Ben, c'est le fun. C'est le fun.
Il dit, n'a pas.
L'idée, non, en fait, c'est que tu peux donner des dates. Tu peux donner des budgets. C'est juste que le temps, le budget, puis l'étendue du travail, tu ne peux pas avoir les trois fixes, à moins de connaître puis de maîtriser, d'avoir un contrôle sur toutes les variables. Puis comme ce n'est pas le cas, maintenant, au mieux, tu peux avoir deux de ces éléments-là qui sont fixes. C'est tout à fait faisable, si on va le voir tantôt, de pouvoir donner une date et de pouvoir donner un budget. Maintenant, est-ce que tu vas recevoir pour ça? On ne peut pas te garantir exactement ce que ça va être.
Ah ben moi, je veux que tu me le garantisses, sinon je vais chez le voisin.
Bien, qu'il aille chez le voisin, puis le voisin va peut-être y mentir.
Et voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Merci, Maurice.
Maintenant, il y a un autre élément. Toute initiative est un système complexe de systèmes complexes. OK? Pratiquement peu importe le projet que vous allez faire, à moins que ce soit ridicule. Prenons un projet très complexe, faire à souper pour ma famille. OK? Ça peut sembler super simple, mais.
Non, je sais que c'est compliqué.
On est trois ici qui ont tous des goûts différents. Puis quand tu demandes à qui que ce soit qu'est-ce que tu veux pour manger, c'est je bois. Puis quand tu commences à faire des suggestions, c'est tout le temps non. Ça devient rapidement quelque chose de très complexe. Puis là, on parle de faire à souper. Fait qu'imaginez un projet de multimillions de dollars qui va avoir juste une toute petite équipe de 85 personnes réparties dans trois continents différents.
Oui, clairement.
Donc, à cause de ça, dans la théorie des systèmes, on sait qu'un système comme un être humain peut jamais contrôler et prédire les résultats d'un système qui est plus complexe que lui. C'est quand on parle d'un système complexe composé de systèmes complexes, bout de vierge que c'est plus complexe que juste une personne. Okay? Oui, la personne peut influencer ou initier le système. Okay? On peut peser sur le bouton ou la petite switch pour faire partir la machine, mais on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner à l'autre bout. Il y a tellement de variables qui rentrent en compte que le résultat, ben, on peut dire, il dépend du hasard, même quand il ne dépend absolument pas du hasard parce que les systèmes sont bien engrenés un dans l'autre.
Oui.
C'est juste qu'il y en a tellement, puis tellement de choses imprévues qui peuvent arriver que le résultat va être ce que ça va donner.
Des fois, ça prend juste un système qui dérape pour faire déraper toute la machine. Là.
Exact. Dernier élément, c'est que l'information qu'on possède est souvent ambiguë, qu'on en soit conscient ou pas. Hein. On a tendance à être certain de l'information qu'on possède. Même si l'information est fraîche, tu la lis, tu l'absorbes, tu la maîtrises, sauf que tu n'as pas réellement compris quelque chose qui est écrit là, parce que la personne qui l'écrit à l'autre bout ou qui l'a dicté à l'autre bout avait quelque chose d'autre en tête et ne s'est pas exprimé correctement. Le problème n'est pas sur toi, mais le problème est néanmoins que tu n'as pas eu la bonne interprétation de la situation. Donc, c'est toujours possible de mal interpréter des données ou d'autres informations en notre possession, ou qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une faute d'interprétation dans toute la chaîne qui nous l'a amené jusqu'à nous. Fait, quand notre information est fausse, qu'on en soit conscient ou pas, ben, ça rend la prédiction presque impossible.
Oui. Mais c'est un petit peu pour ça, Maurice, là, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'on parlait, on faisait des blagues de divination, hein, puis de diseuse de bonne aventure, puis de tarot dans l'introduction, parce que c'est ça que ça donne. C'est que la complexité, puis la volatilité, puis le VICA rend toute la planification prédictive tellement, j'allais dire, limite magie noire, là. Hein? C'est que ça tient plus de la divination que de la planification.
Puis tu sais, ce qui m'épate à chaque fois, c'est quand tu parles de ça avec les gens, ils vont tous te dire que c'est de la bullshit. Mais ouais, en même temps, il y a comme une espèce de mensonge collectif énorme basé sur des termes, puis des approches, puis des techniques d'estimation qui sont comme définies à l'extrême, OK, pour réussir à arriver avec des réponses, pour se donner une illusion que ce qu'on fait, ça fait du sens.
Tu sais, Maurice, je me souviens, c'est le dernier Agile Tour où je suis allé. Il y avait eu une excellente présentation d'un agiliste, je ne sais pas si c'est français ou belge, qui il racontait essentiellement qu'on se ment à soi-même puis collectivement à essayer d'estimer les affaires puis tout planifier comme ça. Puis il avait fait, écoute, c'était un 30 minutes où il riait de tout le monde. Tout le monde était attaqué là-dedans, développeurs, chargés de projets, Scrum Master, toute la gang. Mais, je veux dire, je me bidonnais parce qu'il y avait raison mur à mur. Et je suis allé avec deux directeurs avec qui je travaillais. Et au dîner, j'ai demandé qu'est-ce que tu as pensé de sa conférence. Il dit, écoute, il m'a presque eu. Puis j'aurais embarqué si ce n'était pas que je me fais demander des dates à tous les jours. Je ne me souviens pas du nom du conférencier, mais essayez de le chercher. Agile Tour 2019. Vous allez le trouver, il y a peut-être quelques vidéos sur YouTube de sa part, je ne sais pas, je n'ai jamais cherché.
Dieu qui n'a pas fait sa recherche avant l'enregistrement de cet épisode.
Ben, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas planifié. Hein? C'est ça. Donc, bon, on a des pistes de solutions pour vous autres. Hein? Souvent, on a des trois trucs, là, mais avant, on a des vraies applications qu'on peut essayer de mettre en place pour pas que ce soit juste du hasard.
Mm-hmm. Et basez-vous sur des choses que vous savez. Donc, premièrement, déterminez l'importance, la priorité puis l'impact estimé d'un projet porteur d'une initiative de votre organisation. C'est-à-dire que votre projet, qui est plutôt que de juste se limiter à comment ça va nous coûter à faire, demandez-vous, est-ce que c'est important pour nous? Dans quelle mesure c'est important pour notre business? Dans quelle mesure on s'attend à ce que ce projet-là nous rapporte, nous ramène quelque chose, le retour sur l'investissement. Votre budget devrait être basé sur ce retour sur l'investissement-là que vous voulez obtenir, que ce soit en argent, que ce soit en positionnement, que ce soit en amélioration de votre système, hein, juste éliminer ce qui ne va pas bien dans un système ou faire une grosse mise à jour. Puis quand on système, pas juste un système informatique, là, ça peut être dans la façon dont on livre nos pizzas, ça peut être dans la façon dont on manufacture nos bas.
Oui.
Peu importe ce que c'est.
De mon expérience, Maurice, le retour sur l'investissement, ou bien c'est pas considéré du tout, et si ce l'est, il n'y a absolument rien de cette information-là qui se rend aux équipes qui font le travail. Zéro.
Mais non. Mais ça veut dire que vous êtes encore capable, si vous y tenez, à déterminer vos budgets sur un rythme annuel. C'est pas un problème. C'est juste que établissez le budget pas sur le coût estimé, mais sur le revenu estimé puis l'importance sur l'organisation. À ce moment-là, c'est possible de dire, bien, ce projet-là, c'est 15 % de notre chiffre d'affaires pour notre entreprise. Bien, mettons le budget en équivalence avec ça. Pas nécessairement 15 %, mais dans le sens que mettons le bon budget pour pouvoir aller chercher ce 15 %-là. Est-ce qu'il veut dire qu'il peut y avoir des choses qu'on s'attend à voir avec ce budget-là, mais il ne va pas être rattaché à un pour un avec des activités à faire, hein, avec une livraison spécifique. Visez d'obtenir le maximum de valeur possible pour le budget que vous investissez.
Et Maurice, un des arguments qu'on va attendre pour ne contre ce que tu viens de proposer, c'est parce qu'on ne sait pas là, si ça va marcher, cette affaire-là.
Tu ne sais pas si ça va marcher, c'est peut-être un problème. Fais une petite expérience contrôlée avant.
C'est ça. D'où l'importance d'avoir une approche de livraison qui utilise des incréments. Hein, faire ça en petits morceaux.
Oui.
Là, il y a plein de manières de faire. Hein. Tous ceux qui travaillent en agile sont habitués d'en entendre parler.
En ligne aussi, ça peut fonctionner. Ce n'est pas toujours comme ça, mais on peut le faire. L'idée est, prenez vos grandes initiatives, transformez-les en petites initiatives. Des fois, c'est des petites initiatives qui vont être indépendantes les unes des autres, puis des fois, elles vont être faites pour être créées une après l'autre. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une livraison de valeur, on peut tout de suite la consommer. Puis quand on la consomme, bien, à ce moment-là, on est en mesure de prendre les retours pour chaque livraison. Puis quand on parle de retour, on parle du feedback. Okay? Les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les gens qui calculent le retour sur l'investissement, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, en prenant cette information-là dans un contexte réel, ça va nous permettre de pouvoir réajuster chacune de nos étapes. Puis là, je spécifie le contexte réel, le nombre de fois avec des organisations où j'ai demandé « qu'est-ce que votre utilisateur en pense? » Puis on me donne une belle réponse, on me donne un document bien plein. Puis là, je regarde ça, puis je fais « wow, vous avez un utilisateur vraiment qui interagit beaucoup. Est-ce que je peux y parler? » Ben oui, c'est Robert, là. Mais c'est parce que Robert, c'est pas un utilisateur, là. Robert, c'est un des chefs de produits que vous avez. Oui, mais c'est le proxy utilisateur. Écoutez, la meilleure comparaison que je peux vous donner avec ça, okay, c'est que vous êtes quatre personnes qui allaient manger dans un restaurant. Puis le serveur, plutôt que de vous demander qu'est-ce que vous voulez manger, il va demander à un proxy client, okay, qu'est-ce que vous autres, vous voudriez manger. Puis le proxy client qui étudie votre dossier sait qu'il y en a un dans le groupe qui n'aime pas les fruits de mer. Fait qu'il va demander, pour tout le monde, le sauté de tofu au beurre d'arachide. Ne sachant pas que trois des personnes trouvent le tofu absolument infect, puis le quatrième a une allergie mortelle au beurre d'arachide.
J'aime beaucoup ta comparaison, Maurice, c'est malade. Là, je ne veux pas qu'on s'étende trop, mais il y a d'autres avantages aussi à aller par incrément de valeur, hein, c'est-à-dire que ben, si on essaie quelque chose, si on est capable d'avoir quelque chose délivré qui est immédiatement consommable, des fois, tu peux déjà avoir un retour sur ton investissement maintenant.
Exact. Ben, c'est le but. C'est comme ça qu'on le mesure.
Non, mais tu sais, dans le sens, il y a des projets faits sur un an où ce que tu vas commencer à avoir le premier sou après un an. Donc, l'idée, si tu as quelque chose de disponible après un mois, tu commences déjà à avoir tes premiers sous. C'est pas juste des sous, là, les retours sur l'investissement, ça peut être autre chose. Mais tu sais, c'est un des avantages là, qui est connu de ça.
Absolument, absolument. Ça permet aussi de faire vos plans à court terme, même si le budget au total est sur le plus long terme. Donc, soyez conscient que vos plans vont évoluer en cours de route. Hein. Gardez en tête que le but est toujours de tirer un maximum de valeur du budget. Pas juste de faire le maximum de choses avec le budget, d'avoir le maximum d'impact et de retour sur l'investissement. Ce qui veut dire que tout le long de votre année de budget, vous allez avoir une conversation en continu sur qu'est-ce qu'on devrait faire prochaine étape ou dans deux étapes ou dans trois étapes, basé sur ce qu'on a appris à date pour pouvoir aller chercher, avoir le maximum d'impact avec nos prochains efforts. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui disent « Moi, je n'aime pas Agile parce que c'est comme ça, tu n'as pas de planification, tu y vas à la va comme je te pousse puis tu t'improvises au fur et à mesure que tu avances. » Ce n'est pas le cas ici, là. Ici, vous avez quand même des objectifs que vous voulez avoir, un budget maximum que vous avez mis en place, des objectifs de profitabilité ou de retour sur l'investissement sur ce que vous voulez faire, puis des grandes actions sur lesquelles vous voulez agir. Là où vous vous remettez en question constamment, c'est est-ce qu'on en a fait assez dans cette branche d'action-là? Puis est-ce qu'on devrait porter notre attention ailleurs parce que ça va augmenter notre retour sur l'investissement ou pas? Donc, ce n'est pas une question dont on n'a jamais rien planifié en avance. C'est une question dont on remet constamment en question nos plans, puis on les ajuste.
Moi, j'ai travaillé dans un endroit, Maurice, où sur un an, on avait un objectif qui était très, très clair, mais notre plan d'action sur un an était excessivement vague, sur 6 mois était plus ou moins vague et sur 3 mois était très défini. Fait qu'à chaque 3 mois, dans le fond, on revoyait un petit peu ce qu'on allait faire à court terme, puis on ajustait le 6 mois qui pouvait absolument plus être bon. C'est très intéressant de voir comment on progressait là-dedans. Fait que, tu sais, on n'essayait pas de tout prédire ce qu'on allait faire sur un an. On connaissait juste les 3 prochains mois.
Puis, dans même des organisations qui ont atteint un niveau d'agilité très élevé, bien, on va pouvoir voir ça sur une question de quelques semaines. À tous les mois, mois et demi, les plans sont refaits. Pas refaits rapidement, mais vont constamment évoluer. Donc, à chaque situation, tu sais, à chaque premier du mois, bien, notre vision de où est-ce qu'on s'en va être différente d'il y a un mois et demi. Un autre avantage à fonctionner comme ça, c'est que ça va encourager l'émergence de nouvelles propositions pour maximiser l'impact de l'investissement. Rappelez-vous, au dernier épisode, on a parlé qu'avec le changement de balance de pouvoir au sein des entreprises, c'est une belle opportunité pour pouvoir engager beaucoup plus l'ensemble des employés, incluant les gens de terrain qui souvent ont une vision beaucoup plus concrète de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui est nécessaire, des difficultés que vous allez rencontrer avec le projet, beaucoup plus que les décideurs, voire les architectes sont capables d'avoir. Donc, vous voulez faire émerger avec ces gens-là des nouvelles propositions pour vous permettre de mieux remplir votre mission qui est de maximiser le retour sur l'investissement du budget que vous avez déterminé.
Un des réflexes que ça va soulever, Maurice, ça, c'est une partie de qu'on va appeler le système immunitaire de l'organisation, hein, c'est que oui, c'est super bon ton idée, mais c'est pas ça qu'on a prévu, là. Es-tu en train de me dire qu'apporter plus de valeur, ça serait une mauvaise chose? T'sais, des fois, c'est important de remettre en question un petit peu le plan qu'on avait, qu'on a fait là 6 mois, hein, puis de faire, tu sais, si on a quelque chose qui apporte plus de valeur, peut-être ça vaut la peine de le faire. Et je veux dire, par exemple, au client, au pire, c'était pas sûr, là. Si lui est content, c'est son argent, là.
Absolument.
Changez-les les plans, là. C'est pas grave. Si le client est content.
Client est content. C'est ça nous évite d'avoir à pousser sur ce qui n'est pas nécessaire.
C'est ça.
Fait que là, il y a plein d'avantages qu'on va pouvoir tirer d'une approche comme ça. Puis la première qui va probablement plaire à tous les gens de finance qui vont nous écouter, on dépasse plus les budgets. Il a été déterminé. On sait c'est quoi la limite maximale qu'on est prêt à investir sur ce projet-là, cette initiative-là. À partir de maintenant, c'est d'avoir le maximum de retour sur notre investissement jusqu'à dépenser du budget. Là, si vous m'argumentez, oui, mais si ça ne marche pas, si le projet n'est pas fini, si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, bien, vous n'avez rien, non, vous n'avez rien écouté de ce que je viens de dire. Okay?
Oui, mais
si
Marie,
vous dites ça, oui, quoi?
Je veux faire un nouveau métro à Montréal. Es-tu en train de me dire qu'il va falloir qu'on planifie à mesure pour ne pas dépasser les budgets? Tous les travaux de Montréal dépassent les budgets d'environ 400% à coup de milliards.
La plupart des travaux de construction sont comme ça.
Oui. Et c'est ça, c'est une des difficultés. Hein? Tu ne peux pas improviser et tu ne peux pas tant faire ça en agilité, les projets de construction.
Mais ça dépend. Tu sais... Si on veut amener l'argument, bien, si je veux bâtir une maison en agile, puis avec un budget déterminé, puis j'arrive, puis en bout de ligne, je n'ai pas de toit. Je fais quoi? Ouais. Bien, l'idée est, c'est parce que ton projet, il n'a pas été bâti comme il faut. Il faut que tu l'imagines de, OK, on va faire un petit carré de maison là, ça va être fini, elle va être habitable là. Puis on va faire l'autre aile à côté, puis l'autre aile à côté, puis l'autre aile à côté.
Ouais. Tant donc, il y a aussi, toi, c'est du waterfall.
Bien, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la plus grosse... Comment?
La maison n'était pas consommable.
Bien, c'est ça. Ça, c'est le plus gros problème des grands projets. C'est qu'on ne veut pas les imaginer en plus petits morceaux ou en quelque chose de progressif. On veut les imaginer en un tout. Puis tant qu'on fait ça, on ne peut rien faire de façon agile. Là, tu vas me dire, oui, mais si je veux construire un pont au-dessus du fleuve, bien, construisez-le pas en agile, votre pont au-dessus du fleuve. C'est pas fait pour.
C'est ça.
Bref. Revenons aux avantages. Donc, on a dit, le premier, on n'a plus de dépassement budgétaire. Le deuxième, l'organisation devient plus flexible, plus apte à s'adapter rapidement aux changements émergents, tout en gardant le focus sur les priorités puis le retour sur l'investissement. Ça veut dire, en clair, qu'on peut changer d'idée. Pas par caprice, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une meilleure opportunité à agir un petit peu différemment. Okay? Donc, on révise nos priorités, on révise nos actions, puis on agit en conséquence pour ne pas tout simplement dire, ben là, le train est lancé, on va se rendre jusqu'à la prochaine gare avant de changer d'idée. Puis là, on a dépensé X nombre d'argent pour quelque chose qu'on va juste jeter au vidange parce qu'on ne l'utilisera pas.
Oui. tu faisais tantôt un parallèle avec l'épisode précédent. On va le ramener ici. Là. Plus on focus sur la valeur apportée plutôt que le plan à suivre, plus il y a des solutions qui vont émerger à travers l'organisation. Hein. Les gens vont être impliqués parce qu'à un moment donné, l'idée, c'est comment je peux apporter le plus possible de valeur pour le temps alloué que j'ai et le budget que j'ai. Ça fait, il faut faire marcher les ménages. On ne peut pas juste donner un plan puis faites-le, là. Parce non, que là, tu viens de corrompre toute la patente.
Il n'y a plus de leader et puis d'exécutant. Là. Ça prend toute la machine qui réfléchit.
Ouais. Donc, il y a une plus grande contribution, une plus grande co-création qui se fait ici. Puis nécessairement, ben, j'ose espérer qu'il va avoir que ça va créer plus d'ownership, mais j'ai déjà vu que ça des fois, ça ne marche pas. Il y a un mindset à avoir, mais c'est un avantage qui est certain.
Puis ça veut dire autre chose de très important, que le leadership de l'organisation peut rester consacré sur ce qu'on appelle l'horizon, hein, les objectifs qu'on va atteindre, le marché, la concurrence, plutôt que de passer son temps à regarder l'organisation elle-même. Donc, on arrête de se fixer le nombril, on fait confiance à l'équipe qu'on a, puis on dit, voici où est-ce qu'on veut aller, maintenant, c'est à l'équipe de trouver une façon pour s'y rendre.
Oui. Oui.
Ça fait que ton leadership est plus efficace dans son rôle de leadership parce que ces anciens exécutants qui sont maintenant rendus des partenaires de réalisation, hein, voyons ça comme ça, puis il ne s'agit pas de changer la nomenclature, hein, refaire une couche de peinture neuve sur une planche toute pourrie de termites ne règle pas le problème des termites. Donc, quand tu as vraiment un changement de structure comme ça, ben, tu te trouves avec une équipe beaucoup plus autonome, capable d'apporter des solutions, puis de les garder en ligne avec là où le leadership veut aller.
Oui, puis ben, nécessairement aussi en contribuant à la stratégie pour réussir à livrer la valeur, ben, les équipes vont développer une meilleure compréhension de ce qui se passe, ben, des enjeux, de pourquoi le client veut ça comme ça. Osons même dire qu'ils vont mieux comprendre toute la dimension de coûts et bénéfices. T'sais? Parce que si tu connais le budget que le client a puis combien tu coûtes, tu vas prendre des décisions complètement différentes que si tu ne sais pas ces données-là. Là.
Ça, c'est super important, puis ça va nous amener au premier de nos trucs.
Oui, parce que là, on vient de donner plein de trucs et d'avantages, mais ce n'est pas nos trois trucs officiels. Donc, on va aller avec les trois trucs et conseils.
Oui. Le premier des trucs, si vous voulez que les gens dans votre organisation, que les employés puissent vraiment se prendre en main puis participer à l'émergence de solutions stratégiques, il faut qu'ils puissent comprendre comment les dynamiques financières fonctionnent, comment les dynamiques de politique fonctionnent, comment les dynamiques de priorité fonctionnent. Ce qui veut dire que le premier truc, c'est que vous devez éduquer vos gens pour ça. Okay? Attendez-vous pas que miraculeusement, tout le monde le fasse, puis se soit développé tous ces réflexes-là. Okay? Donc, vous devez les éduquer, puis vous devez les accompagner jusqu'à temps que ça se fasse.
Le deuxième truc, ben, c'est assurez-vous de mettre en utilisation chaque incrément de valeur hein, qui va être généré en petits morceaux. Puis, soyez certain d'aller chercher des retours, spécialement chez ceux qui vont utiliser ce que vous avez créé.
Les vrais!
les vrais utilisateurs. Parce que, selon ce qu'ils vont dire, vous allez pouvoir, puis vous devriez revoir les priorités suite à ces commentaires-là. Tu sais, ça sert à quoi de suivre? Alors, on va continuer de suivre le plan si l'utilisateur n'a rien compris de ce qu'on lui a donné, puis clairement, il ne l'utilisera pas. Tu vois d'échec là, le projet tout de suite. Là. Tu sais, donc, c'est important, c'est plus important d'avoir de la valeur que de suivre le plan, je dirais.
Hein? Exact.
Et à chaque fois qu'on livre une valeur hein, ou un morceau de valeur, ben, essayer de réévaluer comment on peut mieux servir les intérêts du client, mais les nôtres aussi en tant que qu'entreprise. T'sais, le but, c'est d'avoir un maximum d'impact pour l'investissement que vous avez qui, comme on dit, peut être fixe et peut ne pas déborder. Fait qu'il faut rester adaptable. Là. Si tout est coulé dans le béton, c'est très, très difficile d'aller chercher ce genre de valeur-là. ne peux pas changer d'idée, tu ne peux pas changer de direction.
Puis ça, en parlant d'investissement fixe, c'est ça qui est notre troisième truc. OK? On peut-tu arrêter d'entendre des conneries du genre « il faut que je dépense tout mon budget, sinon je vais me le faire couper l'année prochaine » ou « ben on a eu des imprévus, on n'a pas été capable de suivre notre plan, fait que là, on est puni puis on se fait couper une partie de notre budget. » Voyons donc! Okay?
Ce que c'est comme vous ça voulez... que ça marche. Non, mais c'est comme ça que ça marche dans des institutions comme le gouvernement, le Maurice, là.
Je sais. Oh, je sais. Puis pas juste le gouvernement, c'est dans le privé aussi.
Ah ouais.
Écoutez, si... le budget n'a pas tout été dépensé pour une raison ou une autre. Plutôt que de demander à ces gens-là, ben, gaspillez ce qui reste. OK? Ayez une discussion avec eux autres. Avez-vous de quoi à faire avec le budget pour qu'on puisse le reporter pour l'année prochaine ou pas? Puis si la réponse, c'est pas, ben, on détermine un nouveau budget à frais pour ce qu'on veut faire pour l'année prochaine. Si c'est parce qu'il y a eu des... soit des retards ou soit il y avait des ambitions qu'on n'a pas été faire, des études qu'on a eu faire... Des choses qu'on a préféré explorer plutôt que d'exécuter avant de gaspiller cet argent-là. Puis en bout de ligne, on s'est dit, bien, finalement, on ne le fera pas, puis il reste du budget. Mais c'est une bonne chose. OK? Donc, voyez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce budget-là plutôt que juste penser à pénaliser une équipe pour ne pas avoir suivi un plan qui n'était pas nécessairement toujours suivable ou pour ne pas avoir gaspillé chaque cent d'un budget. Puis là, je peux vous parler par expérience. J'ai déjà eu un mandat quand j'étais beaucoup plus jeune, okay, qui servait uniquement à brûler une fin de budget. J'ai dû rentrer dans des archives qui n'avaient pas été utilisées depuis des années. Il y avait de la poussière par terre. Hein, je laissais des traces de pas. Okay, puis réorganiser tous les documents dans cette archive-là, qui étaient par ordre de code, pour les remettre par ordre alphabétique de titre. Ce qui servait absolument à rien. Ce qui m'a pris presque 3 mois à faire. Puis quand ça a été fait, on m'a dit « Parfait, Maurice, tu rentres ça dans des boîtes, on envoie ça se faire déchiqueter.
Mais alors, Maurice, parce que la valeur, c'était il faut que ça soit déchiqueté en ordre alphabétique.
Puis on s'entend, là, OK? Je peux vous garantir que ce mandat-là a été payé par vos impôts.
Oh boy! Ah, c'est magnifique! Écoute, Maurice, nous, pour faire cet épisode, on a fait un plan, puis on a divergé un petit peu, mais on a essentiellement livré la valeur qu'on voulait livrer, fait que je suis content.
Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait d'habitude.
Ouais, puis on s'était pas donné de budget de temps, hein, fait que ça a pris le temps que ça a pris, là, c'est là-dessus qu'on a débordé, probablement. Fait que les pirates, je vous donne un budget de 10 secondes pour aller vous abonner à notre page YouTube, puis vous inscrire sur Spotify si vous nous écoutez en audio ou Apple Podcast. Puis si vous avez des idées de sujets, on est tout le temps preneurs, hein? On le dit pas souvent, mais on s'inspire beaucoup, beaucoup de notre audience. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de creuser nos méninges pour essayer de trouver des réponses à vos questions. Donc, mes chers amis, bonne semaine, on se voit la semaine prochaine. Maurice, probablement encore passer de notre sous-sol parce que au diable le micro.
Eh oui, donc bonne semaine tout le monde. Bye bye.
Salut à tous, bye bye.
À la bordade!
À la bordade!
À la...